Chapitre 16. Notre premier printemps à la Maison Blanche est arrivé avec un peu d'avance. Dès la mi-mars, l'air s'est radouci et les journées ont commencé à rallonger. Avec le redoux, la pelouse sud s'est pour ainsi dire métamorphosée en parc privé ouvert à toutes les explorations. Une herbe verdoyante à perte de vue, bordée de chênes et d'ormes aux vastes frondaisons, et tapis derrière les haies, un minuscule étang, auquel menait un petit chemin d'allée, sur les pavés duquel avaient été gravées les empreintes de main des enfants et petits-enfants de mes prédécesseurs. Il y avait d'innombrables recoins pour jouer à chat ou à cache-cache, et même quelques animaux sauvages, des écureuils et des lapins, mais aussi une buse à queue rousse qu'un groupe d'écoliers en visite à la Maison Blanche avait baptisée Lincoln, ainsi qu'un renard à la silhouette effilée et aux longues pattes qui montrait parfois le bout de son nez au loin en fin d'après-midi et qui, à l'occasion, poussait l'audace jusqu'à se faufiler le long de la colonnade. Pour nous qui avions passé une bonne partie de l'hiver calfeutré à l'intérieur, ce nouveau jardin était une bénédiction dont nous avons pleinement profité. Nous avons fait installer un portique pour Sacha et Malia, près de la piscine, directement en face du bureau ovale. En fin de journée, pendant telle ou telle réunion de crise, il m'arrivait de lever les yeux et de voir les filles en train de jouer dehors, de se lancer à l'assaut du ciel sur les balançoires, le visage irradiant de bonheur. Nous avons également fait installer deux panneaux de basket à chaque extrémité du terrain de tennis, ce qui me permettait de m'éclipser de temps à autre pour faire quelques paniers avec Reggie, ou au staff de se défouler en organisant des tournois de 5 contre 5. Et avec l'aide de Sam Cass, ainsi que de l'horticulteur de la Maison Blanche et d'un groupe d'élèves de CM2 enthousiastes d'une école élémentaire voisine, Michel s'est attelé à la création de son potager. Ce qui n'était au départ dans notre esprit qu'un projet modeste, quoique important, destiné à promouvoir de meilleures habitudes alimentaires, est vite devenu un véritable phénomène, qui a fait quantité d'émules dans les écoles et les jardins associatifs de tout le pays, attirant l'attention des médias du monde entier, et s'est révélé si fertile à la fin de ce premier été, produisant en abondance carottes, choux, poivrons, fenouilles, oignons, laitues, brocolis, fraises ou encore myrtilles, que les cuisines de la Maison Blanche ont commencé à donner des cajots entiers de fruits et légumes aux banques alimentaires locales. En guise de cerise sur le gâteau, pour ainsi dire, il se trouve que l'un des membres de l'équipe d'entretien du domaine était un apiculteur amateur, et nous lui avons donné le feu vert pour installer une petite ruche. Non seulement celle-ci a fini par produire près de 50 kilos de miel par an, mais un équipier inventif du mess de la marine, qui avait monté par ailleurs une micro-brasserie, nous a suggéré d'utiliser une partie de ce miel pour faire de la bière. Nous avons donc fait l'acquisition d'un kit de brassage, et c'est ainsi que je suis devenu le premier président brasseur. George Washington, paraît-il, distillait quant à lui son propre whisky. Mais de toutes les joies qui ont égayé cette première année à la Maison Blanche, la plus grande a sans doute été l'arrivée à la mi-avril de Beau, une adorable boule de fourrure noire, le ventre et les pattes d'un blanc immaculé, comme s'il venait de s'enfoncer dans la neige. Malia et Sacha, qui avaient mené une campagne acharnée avant même le début de la mienne pour que nous adoptions un chiot, ont poussé des cris de ravissement la première fois qu'elles l'ont vu, et se sont laissées lécher les oreilles et le visage en se roulant par terre avec lui au beau milieu de la résidence. Les filles ne sont pas les seules à être tombées amoureuses de Beau. Michel passait tellement de temps avec lui, à lui apprendre des tours, à le câliner, à le nourrir en douce de morceaux de bacon, que Marianne a fini par avouer éprouver des remords de n'avoir jamais cédé au désir de Michel d'avoir un chien quand elle était petite. Pour ma part, j'ai découvert en Beau, comme l'a dit je ne sais plus qui, le seul ami sur lequel un homme politique peut vraiment compter à Washington. Il me donnait en outre une excuse parfaite pour mettre un instant de côté mon travail le soir et me joindre à la famille pour une petite promenade sur la pelouse sud après le dîner. Dans ces moments-là, quand la lumière du jour finissant striait le ciel d'or et de violet, quand Michel souriait et me tenait la main en regardant le chien gambader dans les buissons et les filles lui courir après, quand Malia finissait par nous rejoindre et me posait mille questions sur les nids des oiseaux ou la forme des nuages, tandis que Sacha s'accrochait à l'une de mes jambes pour voir jusqu'où j'arriverais à marcher ainsi, j'avais l'impression de retrouver la vie normale, heureuse et comblée à laquelle n'importe quel homme est en droit d'aspirer. Beau nous avait été offert par Ted et Vicky Kennedy, issus d'une portée de deux chiens d'eau portugais que Teddy adorait. C'était un cadeau aussi généreux qu'attentionné, non seulement parce que cette race de chien était hypoallergénique, une condition sine qua non car Malia faisait des allergies, mais aussi parce que les Kennedy s'étaient assurés que Beau soit propre avant de nous le confier. Quand je les ai appelés pour les remercier, toutefois, je n'ai pu parler qu'à Vicky. « Teddy souffrait depuis près d'un an d'une tumeur maligne au cerveau, et même s'il continuait de recevoir des soins à Boston, tout le monde savait, et lui le premier, que le pronostic n'était pas bon. Je l'avais vu en mars, quand il avait fait une apparition surprise à une conférence que nous avions organisée à la Maison Blanche pour donner le coup d'envoi de notre projet de couverture maladie universelle. Vicky était inquiète à l'idée de ce déplacement et j'avais compris pourquoi. Teddy avait du mal à marcher ce jour-là. Il avait perdu tellement de poids que son costume flottait sur ses épaules et, malgré son attitude en apparence pleine d'entrain, ses paupières pincées et son regard voilé trahissaient l'effort physique que lui demandait le simple fait de tenir debout. Pourtant, il avait tenu à être présent, car 35 ans plus tôt, il avait fait de l'accès à des soins de qualité et abordables pour tous les Américains une cause personnelle. On avait découvert un cancer des os à son fils Teddy Junior, qui avait dû être amputé d'une jambe à l'âge de 12 ans. À l'hôpital, Teddy avait rencontré d'autres parents dont les enfants étaient atteints de maladies tout aussi graves et qui n'avaient pas les moyens de payer les factures astronomiques de ses soins. Dès lors, il s'était juré de faire tout son possible pour remédier à ce problème. Teddy avait mené ce noble combat sous 7 présidences successives. Pendant le mandat de Bill Clinton, il avait contribué à faire voter le programme CHIP, permettant aux enfants des familles modestes de bénéficier d'une assurance maladie. Au mépris de certaines oppositions au sein de son propre parti, il avait œuvré avec le président Bush à l'amélioration du remboursement des médicaments pour les personnes âgées. Mais en dépit de son influence et de ses talents législatifs, son rêve de toujours, l'instauration d'une couverture maladie universelle, un système grâce auquel tous les Américains, quels que soient leurs moyens financiers, pourraient avoir accès à des soins médicaux de qualité, continuait de lui échapper. Voilà pourquoi Ted Kennedy s'était fait un devoir de sortir de son lit pour assister à notre conférence. Même s'il n'était plus en mesure de mener lui-même le combat, il savait que sa présence, de courte durée mais puissamment symbolique, pourrait avoir un impact réel. Et de fait, lorsqu'il est entré dans le salon Est, les quelques 150 personnes réunies dans la pièce l'ont accueilli par une formidable ovation. Après avoir ouvert les débats, je l'ai invité à prendre la parole en premier, et certains de ses anciens collaborateurs avaient la larme à l'œil lorsqu'il s'est levé pour parler. Ses remarques ont été brèves. Sa voix de baryton ne résonnait plus tout à fait avec le même panache qu'à l'époque où il rugissait dans l'hémicycle du Sénat. Il avait hâte, a-t-il déclaré, de jouer son rôle de fantassin dans le combat qui s'annonçait. Il a écouté parler 2 ou 3 intervenants après lui, puis il s'est discrètement éclipsé. Je ne devais le revoir qu'une seule fois, 2 semaines plus tard, lors de la cérémonie de signature d'un projet de loi visant à étendre les initiatives de volontariat auxquelles les députés, républicains et démocrates confondus, avaient décidé de donner son nom pour lui rendre hommage. Mais il m'arriverait souvent par la suite de penser à lui quand Beau entrait en trottinant dans la salle des traités, la tête basse et la queue frétillante, pour venir se rouler en boule à mes pieds. Je me souvenais alors des mots que m'avait glissé Teddy ce jour-là, juste avant que nous franchissions ensemble les portes du salon Est. « Le moment est venu, monsieur le président », m'avait-il dit. « Ne laissez pas passer cette occasion. » La quête d'une couverture maladie universelle aux États-Unis, sous une forme ou une autre, remonte à 1912, quand le président républicain Theodore Roosevelt, après 8 années à la tête du pays, décida de se représenter, en s'appuyant cette fois sur un programme réformiste appelant à la création d'un système de santé centralisé à l'échelle nationale. À l'époque, très peu de gens disposaient ou éprouvaient le besoin de bénéficier d'une assurance maladie privée. La plupart des Américains payaient leur médecin à la fin de chaque visite, mais le champ de la médecine devenait toujours plus sophistiqué, et à mesure que les innovations en termes de tests diagnostiques et de procédures médicales se multipliaient, les coûts afférents augmentaient d'autant, de sorte que la question de la santé était de plus en plus corrélée à celle de la richesse. Confrontés à des problèmes similaires, le Royaume-Uni et l'Allemagne avaient institué un système national de couverture maladie, et d'autres nations européennes ne tarderaient pas à suivre leur exemple. Si Roosevelt perdit l'élection de 1912, les idéaux progressistes de son parti contribuèrent à faire germer dans les esprits l'idée selon laquelle l'accès à des soins médicaux abordables pour tous pouvait être considéré comme un droit plutôt que comme un privilège. Il ne fallut pas attendre longtemps, toutefois, pour que le corps médical et certaines figures politiques éminentes du Sud s'opposent avec virulence à toute intervention gouvernementale en matière de santé, qu'ils assimilaient ni plus ni moins à une forme de bolchevisme. Quand Franklin Roosevelt imposa le gel des salaires à l'échelle nationale afin d'endiguer l'inflation pendant la Seconde Guerre mondiale, de nombreuses sociétés commencèrent à proposer des assurances santé et des pensions de retraite privées afin d'attirer les travailleurs qui n'avaient pas été envoyés combattre à l'étranger. À la fin de la guerre, ce système fondé sur les prestations employeurs perdura, notamment parce que les syndicats y trouvaient leur compte, dans la mesure où il leur permettait d'utiliser les avantages sociaux plus généreux négociés dans le cadre des conventions collectives comme un atout pour recruter de nouveaux membres. Le revers de la médaille, c'est que ces mêmes syndicats n'avaient dès lors plus grand intérêt à militer en faveur de programmes de santé financés par le gouvernement qu'aurait pu bénéficier au reste de la population. Harry Truman tenta par deux fois de proposer un système national d'assurance maladie en 1945 puis en 1949 dans le cadre de sa réforme dite du « Fair Deal ». Mais son appel au financement public n'avait aucune chance face aux opérations médiatiques lancées à grands frais par l'Association médicale américaine et d'autres lobbies du secteur de la santé. Or, ces voix antagonistes firent bien plus qu'étouffer dans l'œuf les velléités de Truman. Elles réussirent à convaincre une grande partie de l'opinion publique que la médecine socialisée conduirait au rationnement, à la disparition du médecin de famille et à une mise en péril des libertés individuelles auxquelles le peuple américain est si passionnément attaché. Plutôt que de remettre en cause frontalement le système des assurances privées, les progressistes ont mis toute leur énergie à aider les populations que le marché avait laissées sur le bas-côté. Ces efforts ont porté leurs fruits sous la présidence de Lyndon Johnson avec son projet de Great Society, prévoyant l'introduction d'un régime universel de remboursement des soins pour les personnes âgées, Medicare, financé en partie par les recettes de l'impôt sur le revenu, et d'un régime, sensiblement moins universel, destiné aux plus défavorisés, Medicaid, financé pour partie par le gouvernement fédéral et pour partie par les États. Pendant les années 1970 et jusqu'au début des années 1980, ce système composite a plutôt bien fonctionné, 80% des Américains bénéficiant d'une couverture maladie, soit grâce à leur employeur, soit grâce à l'un ou l'autre de ces deux régimes d'assurance. De leur côté, les partisans du statu quo pouvaient mettre en avant les nombreuses innovations apportées sur le marché par l'industrie médicale à but lucratif, de l'IRM au développement de nouveaux médicaments capables de sauver des vies. Mais si leur utilité était indéniable, ces innovations ont eu également pour effet de faire grimper en flèche le coût des soins médicaux. Et comme ces derniers étaient à la charge des assurances, les patients n'avaient guère de raison de se demander si les compagnies pharmaceutiques gonflaient leurs prix ou si les médecins et les hôpitaux prescrivaient des tests ou des traitements inutiles afin d'étoffer leurs profits. D'un autre côté, pour près d'un cinquième de la population, il suffisait de tomber malade ou d'avoir un accident pour se trouver potentiellement exposé à la ruine financière. Tous ceux qui ne disposaient pas d'une assurance maladie avaient tendance à se soustraire aux suivis médicaux de routine et aux soins préventifs parce qu'ils n'avaient tout simplement pas les moyens de les payer. Et ils attendaient souvent d'être gravement malades avant d'aller se faire soigner aux urgences, où les maladies les plus graves requéraient des soins plus coûteux. Les hôpitaux compensaient le manque à gagner que représentaient pour eux ces soins non couverts en augmentant les tarifs pratiqués pour les patients assurés, ce qui faisait grimper d'autant le montant des cotisations. Voilà pourquoi les États-Unis dépensaient beaucoup plus en moyenne pour les soins médicaux que n'importe quelle autre nation économiquement avancée, 112% de plus que le Canada, 109% de plus que la France, 117% de plus que le Japon. Et pour des résultats similaires, sinon moins bons. Cela représentait une différence de plusieurs centaines de milliards de dollars par an. Autant d'argent qui aurait pu être utilisé à meilleur escient, par exemple pour améliorer la prise en charge et l'encadrement de la petite enfance, ou pour réduire les frais de scolarité universitaire, ou encore pour éponger le déficit fédéral. Cette hausse endémique des coûts liés à la santé pesait en outre lourdement sur les entreprises américaines. Les constructeurs automobiles japonais ou allemands, eux, n'avaient pas à se soucier des 1 500 $ supplémentaires en couverture maladie pour leurs ouvriers, actifs ou à la retraite, que les fabricants implantés à Détroit devaient prendre en compte et répercuter sur le prix de chacune des voitures qui sortaient de leur chaîne de montage. Du reste, c'est précisément en réaction à la concurrence étrangère que les entreprises américaines ont commencé à se décharger sur leurs employés d'une partie du coût sans cesse croissant des assurances à partir de la fin des années 1980 et pendant les années 1990, en remplaçant leur régime d'assurance traditionnel, dépourvu ou presque de toute cotisation à la charge de l'employé, par de nouveaux modèles, moins onéreux pour elles, qui comportaient des franchises plus élevées, des tickets modérateurs forfaitaires, des remboursements plafonnés à vie et autres déplaisantes surprises nichées en tout petit caractère dans leurs contrats. Bien souvent, les syndicats ne réussissaient à préserver leurs avantages sociaux traditionnels qu'en consentant à renoncer aux augmentations de salaire. Quant aux petites entreprises, elles avaient le plus grand mal à fournir le moindre avantage à leurs employés. Les compagnies d'assurance opérant sur le marché individuel, de leur côté, étaient passés maîtres dans l'art de radier ceux de leurs clients qui, d'après leur table de mortalité, étaient le plus susceptibles de recourir un jour ou l'autre au système d'assurance maladie, notamment tous ceux qui présentaient des antécédents. Terme élastique qui pouvait recouvrir tout et n'importe quoi, du cancer à l'asthme en passant par les allergies chroniques. Rien d'étonnant dès lors, quand je suis arrivé en fonction, à ce qu'il se soit trouvé très peu de voix pour défendre le système existant. Plus de 43 millions d'Américains ne bénéficiaient d'aucune assurance. Les cotisations pour assurer tous les membres d'un même foyer avaient augmenté de 97% depuis 2000 et les tarifs ne cessaient de grimper. Pourtant, l'idée d'essayer de faire passer une grande réforme du système de santé devant le Congrès, au plus haut d'une période de récession historique, suscitait une certaine fébrilité au sein de mon équipe. Même Axe, lui qui savait mieux que personne combien il était difficile d'avoir accès à la médecine spécialisée, car s'il avait renoncé au journalisme et embrassé la carrière de consultant politique, c'était notamment pour pouvoir payer les soins requis par la forme sévère d'épilepsie dont souffrait sa fille, était dubitatif. Les chiffres sont assez clairs, a dit Axe quand nous avons commencé à aborder le sujet. Les gens détestent peut-être la façon dont les choses fonctionnent de manière générale, mais la plupart sont assurés. Ils ne réfléchissent jamais vraiment aux failles du système jusqu'au jour où quelqu'un dans leur propre famille tombe malade. Ils aiment leur médecin, ils ne font pas confiance à Washington. Et quand bien même ils croient en ta sincérité, ils ont peur que le moindre changement que tu pourrais initier ne leur coûte de l'argent et ne bénéficie à quelqu'un d'autre qu'eux. Et puis, quand on leur demande ce qu'ils aimeraient voir changer dans le système de santé, en gros, ils veulent avoir accès à tous les soins possibles et imaginables, quel que soit leur coût ou leur efficacité, quel que soit le prestataire, à n'importe quel moment, et gratuitement. Ce qui est impossible, bien sûr. Et encore, ça c'est avant que les compagnies d'assurance, les compagnies pharmaceutiques et les toubibs commencent à monter au créneau. Ce qu'Axe essaie de dire, Monsieur le Président, a interrompu Ram le visage soucieux, c'est qu'un tel projet pourrait nous exploser à la figure. Ram a enchaîné. Il avait été aux premières loges la dernière fois que l'idée d'une couverture maladie universelle avait été mise sur la table, quand le projet de loi porté par Hillary Clinton s'était soldé par un fiasco qui, par retour de bâton, avait conduit les démocrates à perdre la majorité à la Chambre des représentants lors des élections de mi-mandat en 1994. Les républicains diront que la réforme du système de santé est encore un caprice de la gauche qui représentera un gouffre financier et que c'est un moyen pour nous de détourner l'attention alors qu'il y a une crise économique à résoudre. Aux dernières nouvelles, ai-je rétorqué, il me semble que nous faisons tout notre possible pour résoudre la crise. Je le sais bien, monsieur le président, mais les Américains, eux, ne le savent pas. Et donc quoi? En dépit du fait que nous disposons de la plus forte majorité démocrate depuis des décennies, en dépit des promesses que nous avons faites pendant la campagne, on ne devrait pas se lancer dans la réforme du système de santé? C'est ça qu'on est en train de dire? Ai-je demandé. Ram, cherchant du renfort, s'est tourné vers Axe. Nous sommes tous d'avis que nous devrions tenter le coup, a dit ce dernier. Simplement, il faut que tu aies conscience que si jamais nous échouons, ta présidence en sera gravement affaiblie. Et ça, personne ne le sait mieux que McConnell et Boehner. Je me suis levé pour mettre un terme à la réunion. Eh bien, dans ce cas, ai-je dit, nous avons intérêt à ne pas échouer.